Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Dans cet épisode, nous continuons notre exploration du temps. Après une première partie permettant d'introduire le concept même du temps, à la fois d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue physique, observationnel, il est temps d'essayer d'expliquer la nature du temps, de manière scientifique. Nous avions terminé le dernier épisode en comparant l'univers à un cours d'eau. Le courant représentant le temps, immuable, s'écoulant toujours dans le même sens, sur lequel nous naviguons, emportés par celui-ci. Et vous allez voir dans cet épisode que la métaphore prendra à nouveau son sens. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Nous avions vu dans l'épisode précédent que, pour de nombreux philosophes, le temps, c'était synonyme de changement, un moyen de mesurer l'évolution, le changement d'un objet d'étude. Mais ce changement, quel est-il d'un point de vue physique ? Comprendre les évolutions qui se produisent, c'est le principe même de la thermodynamique. Vous en avez déjà entendu parler, Willy en a déjà fait un épisode sur le sujet, que je vous invite à écouter d'ailleurs. Mais alors que vient faire cette fameuse thermodynamique avec notre courant, notre flèche du temps? Et pourquoi semble-t-elle intricablement liée? Pour commencer, écoutez ces deux sons. Le premier est précis, structuré, mélodique, tandis que le second, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc. Il n'a aucune structure apparente et toutes les fréquences sont présentes en énergie identique. Supposons que nous générions en choisissant complètement aléatoirement des fréquences dans chaque longueur d'onde. Voici donc ce son généré. Si maintenant je vous demande auquel des deux sons précédents ce nouveau son ressemble-t-il le plus ? Eh bien vous me répondrez normalement que ce son aléatoire ressemble davantage au bruit blanc qu'au son plus mélodieux, parce qu'il ne présente pas de structure particulière. Si nous continuons à générer de nouveaux sons aléatoires, la plupart d'entre eux ressembleront davantage au bruit blanc qu'à la mélodie. La probabilité de créer au hasard une mélodie précise est très faible, et en général, nous obtiendrons un son sans structure, homogène. En thermodynamique, cette propriété de ressembler à quelque chose d'aléatoire et d'homogène, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Si on voulait retranscrire l'entropie de façon auditive, on dirait que le bruit blanc possède une entropie plus grande car il a plus de chances de ressembler à un son aléatoire. Dans notre univers, l'entropie est définie de la même façon. L'univers est composé d'atomes qui peuvent s'agencer de multiples façons. Certains de ces agencements semblent homogènes, comme l'air qui nous entoure par exemple, alors que d'autres présentent des structures, comme un cristal. Et alors imaginons que nous générions aléatoirement, comme la musique, un nouvel agencement de la matière en choisissant au hasard la position et la vitesse de chaque atome. Eh bien, nous avons évidemment davantage de chances de tomber sur un agencement homogène qui ne ressemble à rien et donc plutôt à un gaz qu'à une structure très ordonnée comme un cristal. Autrement dit, il est difficile de générer de l'ordre de façon aléatoire. On dit là encore que le gaz a davantage d'entropie car il ressemble plus souvent à une distribution aléatoire. Pour comprendre, imaginez 100 personnes dans une grande salle, et vous dites à chacun de se placer là où il le souhaite. Eh bien, vous en conviendrez, il y a beaucoup plus de chances que leur position ne ressemble à rien, plutôt que tout le monde soit parfaitement en file indienne. Plus précisément, l'entropie d'un objet, c'est une grandeur qui définit tous les agencements possibles qui ressemblent à l'objet qu'on étudie. Oui, alors peut-être que ça ressemble, mais ce n'est pas le même objet. Et en théorie, oui. Mais dans la pratique, on a un tel nombre d'atomes à l'échelle macroscopique que les tout petits écarts qui sont permis ne se voient pas. Prenez par exemple deux ballons remplis d'air. Les molécules à l'intérieur ne sont pas exactement identiques en tout point, elles n'ont peut-être pas exactement la même vitesse, peut-être qu'un ballon contient un peu plus d'atomes d'azote que dans l'autre, etc. Mais disons que grosso modo, de notre point de vue, c'est la même chose, et donc ils ont la même entropie. Si on essaye de retranscrire des phénomènes physiques en son, l'entropie de cette mélodie est donc plus faible que celle du bruit blanc. Car il existe beaucoup plus de configurations qui ressemblent à un bruit blanc plutôt qu'à celle d'une mélodie. Mais alors vous allez me dire, quel rapport avec le temps ? Eh bien, on en a parlé dans notre épisode sur la perception de ce qui semble être la flèche du temps. Ce fleuve dont le courant nous fait aller dans une seule direction précise, le futur qui devient le présent, puis le présent devenant à son tour le passé. Eh bien, une des explications plus physiques, du moins d'un point de vue macroscopique, réside justement dans cette entropie, notamment un de ses principes qui est le fameux second principe de la thermodynamique. Il nous dit ceci, toute transformation d'un système s'effectue avec une augmentation de l'entropie globale. On dit qu'il y a création d'entropie. Autrement dit, dans un système isolé, l'entropie ne peut pas diminuer avec le temps. Ça paraît abstrait, mais je vous assure que vous allez comprendre tout de suite avec des exemples concrets. Prenons deux objets d'étude. Un verre, puis un verre cassé. Vous savez intuitivement identifier l'ordre chronologique entre ces deux états. Vous savez parfaitement qu'on ne peut passer que du verre entier au verre qui se casse. De même, prenons deux états différents, un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide, et ensuite un deuxième état qui est une eau tiède. Vous savez pertinemment que c'est le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide qui donne de l'eau tiède, et non pas l'eau tiède qui se met à se séparer en une partie froide et une partie chaude. Vous avez donc l'intuition du temps. Pourtant, à l'échelle microscopique, les deux états avant et après ne semblent rien présenter de très différent. Alors pourquoi ces deux événements n'arrivent que dans un seul sens ? Pour reprendre l'exemple du verre, je vous invite à compter le nombre de possibilités qu'il y a pour un verre d'exister. Normalement, vous devriez me répondre une seule. Il n'y a pas 36 000 configurations possibles. Maintenant, pensez à l'état que l'on appellerait le verre cassé et au nombre de configurations possibles. Eh bien, elles sont presque infinies. Vous pouvez le casser en deux, en trois morceaux, en miettes, l'écraser, l'éparpiller, bref. Si on prend le nombre d'états possibles, il y a un seul état qu'on appellerait verre entier, pour une infinité d'états qu'on appellerait verre cassé. Si on avait toutes les configurations possibles devant nous et que, en fermant les yeux, on en pointait une du doigt au hasard, il serait beaucoup plus probable qu'on tombe sur la configuration verre cassé que celle de la configuration verre entier. Et pour l'univers, c'est exactement la même chose. Mais cela veut dire que passer d'un état cassé à un état entier n'est pas totalement impossible. Mais il y a une probabilité d'apparition tellement faible que l'observer durant des milliards d'années ne serait même pas assez long pour avoir la chance de voir l'événement se produire. Alors vous pourriez vous demander, oui mais pourquoi les choses changent ? Pourquoi est-ce que l'eau chaude et l'eau froide doivent se mélanger obligatoirement ? Pourquoi est-ce qu'elles ne resteraient pas chaudes d'un côté et froides de l'autre ? Eh bien c'est sur ce point que la notion d'entropie va être cruciale. Parce que dans l'univers, si on laisse un système évoluer spontanément, son entropie a tendance à augmenter. C'est ce fameux second principe. Alors derrière ce principe très fort se cache en fait une réalité et une explication très simple. Dans notre univers, les atomes, vous le savez très bien, ne sont pas fixes, ils sont agités. Et leur répartition microscopique fluctue constamment, au hasard des événements, d'une collision d'un atome avec un autre, de l'absorption ou de l'émission d'un photon, de la désintégration d'une particule. Bref, les particules, les molécules, les atomes passent en permanence d'une configuration à une autre. Autrement dit, les choses ne peuvent jamais rester telles qu'elles sont. Ces petites fluctuations conduisent donc petit à petit à une dilution de l'énergie et donc une augmentation de l'entropie, rendant impossible tout retour en arrière, tout simplement parce que la probabilité de retrouver son état d'avant plus ordonné et de plus en plus faible. Alors maintenant que nous comprenons ce à quoi correspond ce fameux courant dans notre rivière, cela ne répond pas à la plus grande question. D'où ce courant prend-il sa source ? Eh bien, il vient de la manière dont s'est créé notre univers. Le Big Bang suggère que l'univers a commencé dans un état de très très faible entropie. À l'état initial, notre univers est incroyablement chaud et dense, avec une répartition presque uniforme de la matière et un niveau d'énergie extrêmement spécifique. Cet état hautement ordonné représente donc une faible entropie. Tout simplement parce que cet état est très très peu probable, comme notre verre entier. Et à mesure du temps passant, l'univers se refroidit, commence à se développer, la matière et l'énergie commencent à se regrouper en grumeaux qui vont former des étoiles, des galaxies, des distributions aléatoires. La matière qui compose l'univers a évolué progressivement au gré de microscopiques changements, l'entropie augmentant de façon inéluctable, un peu plus à chaque seconde. Petit à petit, notre univers tel notre verre se brise, s'éparpille, et tout retour en arrière est statistiquement quasi nul. Alors, après avoir appris ça, on peut se demander si l'univers finira par être complètement homogène. On peut imaginer effectivement qu'en augmentant sans cesse son entropie, il finisse par atteindre un maximum, que l'univers atteigne finalement un état d'équilibre, comme notre mélange d'eau froide et d'eau chaude qui finit au bout d'un moment par ne plus évoluer. Mais alors, s'il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de courant, ça voudrait dire que la flèche du temps disparaîtrait, car les seules fluctuations microscopiques qui resteraient ne seraient pas suffisantes pour augmenter son entropie. Mais maintenant que nous comprenons un peu mieux la nature profonde du temps, vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de vos surprises. Car ce temps, ce courant, est plus malléable qu'on le croit. Notre temps est-il le même que celui de l'univers, que celui d'une autre planète ? Vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas, n'est-ce pas Willy ?
Bah merci Maxence, voilà. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans une phase un peu plus scientifique en utilisant beaucoup d'expériences de pensée. La dernière fois, petit rappel rapide, on a essayé de donner une définition du concept de temps d'une façon intuitive, avec ce qu'on ressent, avec aussi la façon dont on en parle entre nous, la notion de verbe, la notion de futur, de présent, de passé. Maxence nous a exposé les visions classiques, philosophiques de la notion de temps, dans une démarche plutôt intuitive sur la notion de temps. Finalement, qu'est-ce que je sais du temps ? Rien. Mais ce que je sais faire, c'est mesurer un intervalle de temps entre deux événements. Cet intervalle de temps, pour pouvoir le mesurer, j'ai utilisé la notion de mouvement périodique. Il suffisait de compter un certain nombre de périodes entre deux événements. On a, rappelez-vous, utilisé les étoiles, on a ensuite utilisé les pendules, puis des notions mécaniques, puis électroniques, puis même atomiques. Dans la mesure où, finalement, tout ce qui est dans l'univers est observable, est mesurable, est quantifiable, il a même une forme, sauf le temps, non, rien. On ne peut absolument pas le concevoir d'une façon équivalente au matériel. La première expérience de pensée, plutôt simple, mais absolument infaisable, évidemment. Imaginons que je mette des horloges atomiques, donc d'une précision quasi absolue, un peu partout dans l'univers, que ce soit sur Terre, dans un laboratoire, dans une voiture, dans un avion, dans une fusée, dans votre poche, autour de la Lune, ou au fin fond de l'univers, enfin voilà. Je les synchronise bien évidemment, et tac, je déclenche. Une fois que c'est déclenché, ma question est simple. Est-ce que si je récupère toutes ces horloges atomiques, est-ce qu'il se sera passé le même intervalle de temps entre tous les événements qui se sont déroulés ? Bien sûr, expérience non faisable, mais peut-être à une plus petite échelle, on en reparlera après. La deuxième expérience est utilisée par votre intuition quand vous êtes en voiture. Au moment du siècle des Lumières, Galilée, Kepler, Newton, etc. pensaient d'une façon intuitive et mathématique et observationnelle. Galilée, lui, a commencé à parler d'une certaine relativité. Alors, relativité, c'est je regarde les choses relativement à quelqu'un d'autre. Par exemple, imaginez que vous êtes en voiture à 100 km à l'heure sur une route parfaitement rectiligne, et puis, voilà, une voiture vous dépasse, elle est à 110 km à l'heure. Évidemment, vous allez voir la voiture vous dépasser à 10 km à l'heure, simplement. Il va vous sembler que ça va mettre un temps très long pour qu'elle vous dépasse. Par contre, la personne qui est au bord de la route va voir une voiture passer à 100 km/h et une voiture la doubler à 110 km/h. Bon, c'est tout à fait intuitif. Donc voilà pourquoi la notion de relatif. Donc on peut observer les vitesses d'une façon relative. Apparemment, si dans ces deux voitures je mets la même horloge atomique et que je regarde à la fin de l'expérience, évidemment, intuitivement, je vais trouver les mêmes résultats. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois. En très grande approximation, je verrai bien qu'elles sont mesurées le même temps. Autre expérience, si jamais vous êtes à 100 à l'heure, évidemment, puis qu'une voiture vous croise dans l'autre sens à 100 à l'heure, bon, bah, vous avez l'impression qu'elle vous croise à 200 à l'heure, et la personne qui est au bord de la route verra deux voitures passer à 100 km/h, une dans un sens, une dans l'autre. Donc voilà ce que c'est qu'être relatif. C'est-à-dire, je vois l'univers relativement par rapport à moi. Et puis, est-ce que vous voyez l'univers par rapport à vous? Et on peut très bien en discuter tous les deux. Et puis, finalement, on dit, tiens, oui, on a observé quasiment la même chose. Une dernière expérience de pensée assez rigolote. Imaginez que vous êtes en voiture, plateau. Et sur le plateau de la voiture, il y a un archer et qui va tirer une flèche dans le sens opposé de la voiture. Alors, imaginons que la voiture roule à 50 km/h et que l'archer va tirer une flèche et la flèche va aller à 50 km/h dans l'autre sens. Et puis, vous êtes au bord de la route. Donc, la voiture passe et l'archer décoche sa flèche au moment précis où il passe devant vous. Vous allez voir quoi ? Vous allez voir une voiture passer à 50 km/h et finalement, comme il lance une flèche qui va à 50 km/h dans un sens moins 50 km/h dans l'autre sens, qu'est-ce que vous allez voir ? Chose étonnante, je vous conseille de faire l'expérience, elle est faisable. Vous allez voir la flèche tomber verticalement devant vous. Donc cette notion de relativité était déjà connue depuis très longtemps. À la fin du 19e siècle, on s'est posé la question, on était embêté avec la lumière. La lumière, c'était quelque chose qui allait très vite. Elle allait à 300 000 km à la seconde. Et on s'est posé la question, si on faisait la même expérience, c'est-à-dire, est-ce que si j'allume un faisceau lumineux à partir d'un train qui va très très vite et que j'envoie ce faisceau lumineux vers l'avant, normalement, suivant la relativité de Galilée, j'aurais dû voir le faisceau lumineux aller à sa vitesse plus la vitesse du train. Chose faite, bien sûr pas avec un train, on s'est aperçu que non, la vitesse de la lumière était constante. Même si je faisais aller le faisceau lumineux dans l'autre sens, comme tout à l'heure avec les voitures, je m'apercevais que là encore, la lumière avait une vitesse totalement constante. Cette expérience a été faite, mais bon, bien sûr pas avec des trains, elle a été faite avec la Terre qui tourne autour du Soleil. On a envoyé un faisceau lumineux dans le sens de rotation de la Terre, et on a envoyé ce faisceau lumineux vers un miroir qui est revenu. Ensuite, au même instant, on a envoyé un faisceau lumineux dans un sens différent, donc qui ne va pas du tout à la même vitesse. On a fait coïncider ces deux faisceaux lumineux et on s'apercevait, au stupeur, que les deux faisceaux lumineux allaient toujours à la même vitesse, 300 000 km à la seconde. Donc là, Einstein est arrivé et a postulé que la vitesse de la lumière était une constante totalement universelle. Et le fait que la vitesse de la lumière soit une constante avait une incidence énormissime sur la notion de temps. Alors, de sa théorie, qui a été validée de nombreuses et de nombreuses fois, la théorie qu'on a appelée la théorie de la relativité restreinte, elle prédit que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Alors là, ça va à l'encontre du bon sens. Comment ça, le temps ne passe pas de la même manière? On a fait cette expérience, bien sûr, puisqu'on a maintenant des horloges atomiques extrêmement précises. On a mis deux horloges, une au sol et une dans un avion qui allait à une vitesse moyenne de à peu près 1000 km à l'heure. On a synchronisé ces deux horloges. Il y en a une qui est restée au sol et une qui est partie dans l'avion. L'avion a fait une tour de la Terre, donc en un certain temps. Et quand on a regardé les deux horloges, elles étaient désynchronisées. Il existait un intervalle de temps qui était totalement différent de ces deux événements. Et la théorie de relativité restreinte prédit que si on va très, 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 très vite, quand on va à une vitesse relativement très proche de la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule pas de la même manière. En a découlé ce qu'on a appelé le paradoxe de Langevin. En l'arrangeant à ma sauce, on peut dire, voilà, prenons deux sœurs jumelles qui sont nées en même temps. Ces deux sœurs jumelles, elles ont une horloge biologique, évidemment, et à 20 ans, elles tombent enceintes toutes les deux. Au moment où elles sont enceintes, il y a une des deux sœurs qui part en vaisseau spatial allant à une vitesse terriblement élevée de l'ordre de quasiment la vitesse de la lumière, et à chaque fois que 24 heures se passent, elle coche un jour. Et évidemment, son horloge biologique lui permettra, au bout de 9 mois, de mettre au monde un magnifique bébé. Et elle décide de rentrer, faire un retour, donc encore de 9 mois finalement. Donc il s'est passé pour elle, elle a vieilli de 18 mois, et son bébé à 9 mois en arrivant sur Terre. Elle décide d'aller voir sa sœur, elle sonne chez sa sœur, et qui ouvre? Eh bien, c'est le bébé de sa sœur qui a au moins 20 ans, alors qu'elle, elle en a 40. Bon, bien sûr, cette expérience n'a jamais été faite. C'est simplement pour dire que plus on va vite, plus l'intervalle de temps entre les événements est raccourci. En fait, non seulement l'intervalle de temps est raccourci, mais la distance aussi est raccourcie. On va imaginer un vaisseau spatial qui part se balader dans l'univers avec une accélération constante de 10 mètres par seconde toutes les secondes, c'est-à-dire 1 G. Donc, c'est exactement ce qui se passe comme accélération qu'on a sur Terre, 1 G. Donc, vous êtes collé au sol de votre vaisseau spatial et puis vous allez une accélération de 10 mètres par seconde toutes les secondes. Et vous décidez de vous balader. Alors, vous allez d'abord en direction de Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, rappelez-vous, c'est la plus proche du système solaire. Et cette étoile se trouve à peu près à 4 années-lumière, disons. Si vous regardez votre temps propre dans votre vaisseau spatial avec votre montre, vous allez voir qu'il s'est passé seulement 2,34 ans. Alors que sur Terre, il s'est passé à peu près 5 ans. Maintenant, si vous voulez aller vers le centre de la galaxie, qui est à 30 000 années-lumière, il vous faudra seulement 11 ans, alors qu'il s'est passé quasiment 30 000 ans sur Terre. Si vous voulez aller voir la galaxie d'Andromède, qui se situe à 2 millions d'années-lumière, il vous faudra simplement 15 ans. Si vous voulez faire le tour de l'univers, il vous faudra seulement 25 ans. Donc, bien sûr, quand vous allez revenir, il sera passé tout ce temps sur Terre, donc la Terre n'existera certes même plus. Enfin, simplement pour dire que l'intervalle de temps dépend simplement de la vitesse du support qui bouge, qui permet de mesurer. Et quand j'ai dit tout à l'heure, au tout début, que je mettais des horloges atomiques un peu partout dans l'univers, que intuitivement, elles allaient toutes revenir avec le même temps, eh bien, ce cas est peu probable, les horloges seront tout à fait désynchronisées.
Normalement, vous devez ne plus savoir où vous en êtes. Comment concilier les deux idées du temps ? À la fois le temps comme une conséquence de ce qu'on appelle l'entropie, de la thermodynamique, qui est régie par les lois qui n'ont rien à voir a priori avec la relativité restreinte, avec la vitesse, qui pourtant va rendre le temps modulable, différent d'un endroit à un autre, selon notre déplacement dans l'espace-temps. Continuons notre analogie qui, vous allez le voir, va faire sens de tout ce que l'on vient de se dire. La relativité du temps, c'est un peu comme des obstacles, des cailloux, dans le lit de notre rivière. Une rivière n'a jamais vraiment le même débit partout. Il peut y avoir des engorgements où le débit est réduit, et puis il peut y avoir des chutes d'eau où la vitesse augmente grandement. Effectivement, localement, il est possible de tordre cette flèche du temps, de la faire aller un peu plus ou un peu moins vite, comme il est possible de détourner l'écoulement d'un fleuve. Mais malgré tous les détournements que nous puissions essayer de faire, au final, le fleuve s'écoulera toujours dans un sens, de la montagne vers l'océan, du passé vers le futur. Mais alors si le fleuve, lui, ne peut pas être changé de sens, est-ce que nous ne pourrions pas envisager un moteur suffisamment puissant qui nous permette de s'opposer à ce terrible courant qui est le temps et de potentiellement pouvoir le remonter? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.
Merci, à la prochaine.
Avant de terminer cet épisode, nous voulions remercier Vincent qui nous dit sur Apple Podcast « Simplement génial, merci à vous les amis pour votre mise en lumière de l'univers et merci pour votre travail, je vous claque la bise et bon voyage cosmique à tous. » Eh bien, on te claque la bise aussi Vincent, moi et Willy bien sûr. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous envoyer des commentaires, ça nous fait extrêmement plaisir. Et surtout, soyez tout aussi nombreux à nous poser vos questions. Je vous rappelle que nous allons sortir un épisode spécial où nous vous laissons la possibilité de nous poser vos questions pour que nous puissions répondre à vos plus grandes interrogations. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.